Le retour des manifestants et de la police anti-émeute hier dans les rues de Hong Kong. Un an après le début de la mobilisation des pro-démocraties, des milliers de Hongkongais s'insurgent contre ce qu'ils appellent le nouveau coup de force de Pékin.
Nous craignons que les autorités communistes chinoises utilisent une nouvelle loi perverse pour réprimer davantage le peuple de Hong Kong.
Le président Xi Jinping semble effectivement déterminé à mettre au pas Hong Kong et ses manifestants. Vendredi, devant une assemblée nationale du peuple au garde à vous, le pouvoir chinois a proposé un texte dit de sécurité nationale pour mieux, dit-il, interpeller les sécessionnistes et accélérer l'intégration de la province.
Nous voulons maintenir et améliorer le principe « un pays, deux systèmes ». Nous voulons adhérer à la gouvernance de Hong Kong conformément à la loi et nous opposer à toute interférence extérieure.
Dans la ligne de mire de Pékin, l'Amérique de Donald Trump, qui soutient les manifestants hongkongais et qui accuse la Chine d'avoir caché la gravité de l'épidémie de Covid-19. Le ministre chinois des Affaires étrangères a lancé une mise en garde en agitant le spectre de la guerre froide.
Ce qu'il faudrait éviter maintenant, c'est que certaines forces politiques aux États-Unis poussent nos deux pays vers une nouvelle guerre froide.
La loi voulue par Pékin porte-t-elle un coup de grâce au mouvement pro-démocratie de Hong Kong ? Après Hong Kong, le régime chinois a-t-il Taïwan dans son viseur ? Pékin cherche-t-il l'affrontement avec les démocraties occidentales ?
Elisabeth, chiffre du jour. Qui est une date, hein, 2047. 2047, c'est la date à laquelle le régime chinois doit reprendre le contrôle de Hong Kong. Jusque-là, le principe un pays, deux systèmes garantit son autonomie à Hong Kong. Pierre Grosseur, est-ce que vous pouvez nous expliquer la raison de cette date et comment fonctionne ce principe du un pays, deux systèmes ?
Alors, il faut remonter dans l'histoire, hein, et rappeler que Hong Kong a été au départ une colonie britannique qui ensuite a été une concession pour 99 ans à partir de 1898. Donc si on compte bien, on retombe la rétrocession de Hong Kong en 1997, qui est issue de négociations avec les Britanniques, forcément, et donc un texte de 1984 qui aujourd'hui est une référence essentielle, même si les Chinois ne veulent plus ou prétendent que ce n'est plus une contrainte internationale. Et donc pendant cette période-là, c'est-à-dire 1997 à 2047, c'est-à-dire pendant 50 ans, eh bien, il y avait un pays, deux systèmes, c'est-à-dire que, par exemple, on ne roule pas du même côté sur la route à Hong Kong, on n'a pas la même monnaie, il y a le droit britannique, le britannique qui est en vigueur, etc., etc. Alors, il ne faut pas imaginer que les Britanniques avaient amené une super démocratie, ce n'est pas ça qui les intéressait, il y avait des libertés, notamment la liberté économique, hein. Monsieur Friedman était très fasciné par Hong Kong, donc il y avait essentiellement ça, mais en tout cas, il y avait un certain nombre de libertés qui étaient à Hong Kong et qui ne sont pas évidemment...
Et qui étaient censés être accordés donc jusqu'au moins en 2047. Pourquoi 27 ans plus tôt, 27 ans avant cette échéance, y a-t-il ce projet de loi qui pourrait modifier considérablement la situation ?
Je dirais qu'il y a un paradoxe et une contradiction dans l'accord même de 84. Les autorités de Hong Kong et notamment la population hongkongaise considèrent que, évidemment, pendant 50 ans, rien ne doit changer. Ce qui pose la question de qu'est-ce qui se passe en 2047, et le 1er juillet 2047, du jour au lendemain. Et puis de l'autre côté, il y a les autorités de Pékin qui, depuis plusieurs années, ont une autre stratégie qui est de changer progressivement la situation et de grignoter ce qui est le haut degré d'autonomie, puisque c'est le concept qui est inscrit dans la déclaration et dans la loi fondamentale de 90. On en arrive à quoi ? À simplement, Pékin, depuis plusieurs années, remet en cause une partie des libertés publiques, multiplie ce qui est considéré comme des provocations.
Mais pourquoi ils accélèrent maintenant ? Après une crise sanitaire qui a frappé le monde entier.
Alors, je ne pense pas que ce soit lié à la crise sanitaire. C'est plutôt lié à ce qui s'est passé l'année dernière, notamment les manifestations monstres d'opposition à la loi sur la potentielle extradition de Hongkongais vers la Chine. Les autorités chinoises ont parfaitement compris que la situation était désormais très dure à gérer, que cela a eu un impact important sur l'image de la Chine à l'étranger et que, entre guillemets, une grande partie de la jeunesse s'est radicalisée. Là, la stratégie, clairement, c'est de changer le droit à Hong Kong et d'avoir un outil juridique pour pouvoir mettre au pas notamment l'opposition et notamment le mouvement pour la démocratie.
Pierre Grosseur, je comprends bien qu'il y avait les manifestations il y a un an, mais là, il y a quand même eu un événement sanitaire et qui est devenu économique et géopolitique. Est-ce qu'on peut dire qu'il a affaibli la Chine et que de ce fait, la Chine a voulu resserrer les boulons à Hong Kong ?
Affaiblit la Chine, je pense pas, puisque justement, ce qu'on a reproché à la Chine, c'est plutôt son triomphalisme. Mmh. C'est-à-dire d'expliquer qu'ils avaient eu très bien géré.
Capable d'avoir menti.
Ça, c'est une campagne internationale. En tout cas, c'est comme ça que c'est vécu chez eux. Le degré d'affaiblissement ou de problème, c'est effectivement ce qui a été dit d'ailleurs à la conférence dont vous avez montré les images. C'est-à-dire qu'on ne parle plus trop de projection de croissance, mmh. qu'il y a quand même une croissance qui va être beaucoup plus faible, voire négative, qu'on va avoir un chômage beaucoup plus important, donc un risque social d'agitation, etc. Or, au même moment, vous avez quand même une offensive américaine plutôt qu'occidentale, je crois qu'il faut dire plutôt américaine, sur justement les points faibles de la Chine, c'est-à-dire sur Taïwan. Taïwan qui s'est présenté comme étant le pays qui a réussi de façon extraordinaire à mater le virus. On reviendra peut-être aussi sur ces métaphores virales qui sont très...
Oui, mais expliquez-nous ces métaphores virales, virus politique.
Oui, alors le terme virus politique est utilisé quand même assez abondamment. Oui, oui. Et donc, évidemment, quand on dit virus, ça veut dire évidemment qu'il faut des tests, de la prévention. Et là, il y a tout un volet préventif dans la loi. Et c'est ça qui est le plus inquiétant.
C'est-à-dire
qu'il pourrait être...
Concrètement, à quoi ressemblerait la vie à Hong Kong si cette loi était passée? À quoi ressemblerait la vie sans liberté d'expression? C'est ça dont il s'agit, sans justice indépendante. Ça ressemblerait à quoi?
Alors, les éléments de langage chinois pour l'instant, c'est de dire que si vous n'êtes pas terroriste, sécessionniste ou... interventionniste, entre guillemets, vous n'êtes pas inquiété par la loi et donc passez votre chemin, il n'y a rien à voir. Tout dépend en réalité de la définition de ces termes. Est-ce que, par exemple, avoir des contacts avec un consulat étranger et une ONG étrangère et être sécessionniste ou interventionniste, est-ce que appeler au maintien des spécificités, notamment en termes de liberté politique et publique, à Hong Kong, est-ce que ça, c'est être sécessionniste, etc. Et donc, là, il y a des marges de manœuvre potentiellement pour la Chine pour non seulement avoir un outil juridique pour faire taire des leaders politiques, mais aussi, de façon dissuasive, empêcher une partie de la jeunesse de s'exprimer. Et là, le risque, c'est évidemment que le statut politique de Hong Kong évolue beaucoup plus vite et qu'on ait notamment des leaders du mouvement qui partent à l'étranger afin d'éviter une mise en examen, voire même un emprisonnement.
Mm-hmm. Il y a deux éléments supplémentaires, je crois qu'il faut vraiment rappeler, qui sont importants par rapport à la vie future et par rapport à la manière dont les choses se passent. Le premier, c'est la manière dont tout cela est fait, c'est-à-dire que c'est conçu comme un diktat. Alors que normalement, la loi sur la sécurité nationale, c'est prévu par l'accord de 1984, c'est le fameux article 23, et cet article n'a jamais été rédigé. Et quand il a essayé d'être rédigé en 2003, ça a provoqué des manifestations monstres. Donc la première chose, c'est qu'on contourne le système politique finalement hongkongais pour imposer depuis Pékin, pour simplifier les choses, la loi de ce fameux article 23. Ça, c'est le première transformation
avant Taïwan.
Le deuxième élément qui est important, c'est la possibilité que les agences de sécurité chinoises soient sur le territoire hongkongais et agissent sur le territoire hongkongais. Donc là, évidemment, c'est des enjeux qui sont évidemment totalement différents.
Alors Antoine Mondas, Taïwan n'a pas le même statut qu'Hong Kong, mais apparemment la Chine regarde Taïwan comme elle regarde Hong Kong avec le même souci de surveillance, voire d'hégémonie.
Hong Kong était censé être la première étape avec Macao et Taïwan la seconde étape. C'est d'ailleurs pour ça que le principe même d'un pays, deux systèmes avait été créé à l'époque. Ce qui est important, c'est que Taïwan a évidemment une situation très différente de Hong Kong. C'est de fait une entité indépendante qui a un régime politique, la République de Chine, etc. Ce qui est important pour Taïwan, c'est entre guillemets de maintenir cette autonomie et cette indépendance de fait, même si elle n'est pas forcément reconnue par l'ensemble des pays. Et la question n'est pas tant d'avoir des relations diplomatiques aujourd'hui avec les pays européens, mais d'avoir des relations tout court. Or, Taïwan est un partenaire de la France, des États-Unis, du Japon, partenaire commercial. C'est aussi un pays avec lequel il y a énormément de coopération culturelle. Vous avez un partage de valeurs communes, etc. Et l'objectif des Taïwanais, c'est évidemment de garder leur identité et de garder cette autonomie et surtout ces marges de manœuvre sur la scène internationale.
Pierre Grosseur, les États-Unis comme l'Europe se sont-ils illusionnés sur la Chine ? Est-ce qu'on ne leur a pas fait confiance et finalement on s'est trompé?
Alors, la première chose, c'est d'abord rappeler que dans les années 50-60, les vrais ennemis des États-Unis, pratiquement les seuls avec qui ils se sont battus, c'était la Chine. C'est-à-dire que les Américains ont tué des Chinois, des centaines de milliers de Chinois en Corée, et l'aide chinoise en Corée et au Vietnam, c'était contre des soldats américains. Donc, je veux dire, il faut bien imaginer que la guerre froide, ce n'est pas tout à fait la même chose quand on réfléchit à la Chine et pas à l'Union soviétique. Ensuite, il y a eu effectivement cette normalisation. Il faut faire attention parce qu'on en fait tout un pataquès sur 1972. Mais la vraie normalisation, c'est 1978. Ça a été compliqué d'arriver jusqu'à cette normalisation. Ensuite, oui, on peut considérer ça. D'ailleurs, les Soviétiques, puisque c'était contre l'Union soviétique, toute cette affaire. Qu'est-ce que disaient les Soviétiques? Vous avez tort, vous allez voir dans 30 ans, dans 40 ans, dans 50 ans, etc. Donc, oui, on peut estimer qu'on a eu des illusions. Illusions, non pas tant, je pense, sur une transformation profonde du régime, en tout cas sur son comportement. Et quand on regarde quand même sur le long terme, et aujourd'hui, vous avez encore quelques Américains qui regardent sur le long terme et qui ne sont pas dans la guerre froide anti-chinoise, qui disent que le comportement chinois par rapport aux années 60, 70 et même aux années 80, comportement international, est quand même plus raisonnable sur les questions, par exemple, de prolifération nucléaire. Donc, voilà, on peut regarder effectivement ce qui n'a pas marché et estimer qu'il y a eu des choses tout à fait contre-productives. D'un autre côté, d'abord, la Chine est devenue plus développée et d'autre part, elle est plus socialisée qu'elle ne l'était auparavant.
Quand le ministre des Affaires étrangères chinois parle de guerre froide, comment caractériser cette guerre froide aujourd'hui entre la Chine et les États-Unis?
Alors, premièrement, les diplomates chinois parlent souvent de guerre froide pour critiquer les États-Unis. C'est-à-dire, l'expression courante dans la diplomatie chinoise, c'est les Américains gardent leur mentalité de guerre froide, c'est-à-dire leur volonté d'être unilatéral, leur volonté d'imposer leur volonté et de chercher l'affrontement avec d'autres pays. Ce qui était hier l'URSS est aujourd'hui...
Et leur idéologie.
Exactement. Le deuxième point sur le type de guerre froide, aujourd'hui on ne peut pas dire qu'il y a une guerre froide, en tout cas je pense que ce terme ne peut pas correspondre à la relation aujourd'hui entre la Chine et les États-Unis. On a une relation qui est basée sur trois C, grosso modo. On a à la fois de la coopération, de la compétition et de la confrontation sur certains sujets. On a une inquiétude qui grandit à Washington, ce qui pousse d'ailleurs à un consensus bipartisan aujourd'hui, un républicain-démocrate. On le verra très certainement durant la campagne présidentielle où la question chinoise sera une grande question de politique étrangère et ça va être en quelque sorte un peu la course à l'échalote pour savoir qui sera le plus dur sur la question chinoise, ce qui explique notamment les dernières et les récentes déclarations de Donald Trump. Et puis dans le fond, aux États-Unis, il y a une vraie question. Est-ce que les Américains ont les moyens pour les 20, 30, 40 années à venir de rester la première puissance au monde? Et ça, c'est une inquiétude importante à Washington.
Et